France Bleu, dans le rétro l'intégrale, Déborah Grunewald.
Bonjour à tous, dans le rétro, soyez les bienvenus, moi c'est Déborah Grunewald. C'est le moment de partir pour un voyage dans le temps avec notre invité. Chaque semaine, on remonte le fil d'une vie et d'une carrière. Aujourd'hui, nous sommes avec un bigorneau, une étoile de mer, une huître. Oui, bah oui, c'est sous ses petits noms que sa future femme l'appelle. Sa future femme dans le film Du Cobu passe au vert. Mon invité aujourd'hui, c'est Elie Semoun. Passé, présent, futur, c'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour Elie Semoun.
Ouais. Bah, d'abord, c'est pas Elie Semoun, c'est Elie Semoun.
Ah, j'articule pas ?
Non, vous articulez pas.
C'est con pour la
Alors,
radio.
Quand on a la prétention de faire la radio, on essaye d'articuler parce qu'on s'adresse aux Français. France Bleu, c'est quand même écouté. Hein. Ça fait deux ans que je me prépare à faire cette interview. La dernière fois, ça s'était très mal passé.
C'est parti en vrille ?
Ouais, c'est parti en vrille. Alors, je dis pas que ça va partir en vrille encore. Mais c'est mal parti.
Donc je vais parler comme ça, je vais bien articuler.
Oui, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'audition et qui ne sont pas forcément aptes à entendre.
Il y a une tradition dans cette émission, c'est que tous les invités doivent imiter des bruits d'animaux.
D'accord.
Je vous laisse faire la poule.
Bien sûr. Voilà.
Bon, cette demande... Elle fait plutôt allusion à un passage du cinquième volet
à mon film, très
de Ducobu, avec les youtubeurs Macadam et Débilo, Roman Dodwick notamment. Mm-hmm. Comment ça va, monsieur Latouche ?
Eh bien, monsieur Latouche va très bien. Je suis là pour vous dire qu'il faut travailler à l'école à la perfection. Et si ça ne se passe bien, c'est silence et au coin !
Alors, et si ça ne se passe pas bien ? Vous avez dit si ça ne se passe bien ? Bon, bref.
Bon, écoutez, je ne sais pas quel extrait va être gardé pour Instagram ou pour Internet, mais je pense qu'il y a de quoi faire.
La planète va mal.
Oui.
On le sait, Ducobu a donc décidé de se mobiliser pour la planète. Faut dire que votre génération a cramé leur futur et leurs espoirs.
Ben oui, c'est le malheureux constat qu'on fait dans le film. Alors évidemment, ce n'est pas un film où on donne des leçons de morale aux gens. Et on ne culpabilise pas les enfants, on ne leur met pas un couteau sous la gorge. Mais quand même, je me suis dit qu'il fallait choisir un sujet qui est impactant et qui nous inquiète tous. Peut-être pas les plus jeunes, je crois qu'ils s'en foutent un peu de l'écologie.
Ah, vous croyez ?
C'est même pas que je crois, j'en suis quasiment sûr, pour avoir fait des avant-premières dans toute la France. J'interroge les enfants, je leur dis alors, est-ce que l'écologie ça vous inquiète ? Est-ce que ça vous concerne ? Et la plupart du temps, ils disent non, non. Alors, je les fais marrer en disant, bah, je me suis trompé de sujet, alors. Mais c'est pas le cas de tous. Et quand ils sont plus âgés, ils sont plus inquiets sur l'état de la poubelle, enfin, de la planète, quoi.
On apprend beaucoup de choses dans le film. Oui. Comment écrire Hymenomycète ? Alors, comment on l'écrit ?
Hymenomycetes.
Vous avez oublié les accents. E, accent grave et...
De toute façon, quoi que je fasse, quoi que je dise... Avec Déborah, c'est même pas la peine que je... Mais peut-être qui aime bien châtie bien. Hein.
Exactement.
Mais avec moi, vous êtes hyper psychorigide. Non mais je tiens à le dire, elle m'a engueulée parce que je ne l'ai pas invitée à l'avant-première à l'UGC Normandie. Mais c'est pas moi qui gère ça.
C'est quoi la capitale du Zimbabwe ?
Je sais pas.
Eh ben voilà.
C'est horrible, je sais pas.
C'est rare.
Ah oui, c'est ça.
Alors un humain relâche 5 fois plus de CO2 quand il court. Mm-hmm. C'est donc mauvais pour la planète. C'est pour
c'est
ça que vous ne courez pas en fait.
C'est surtout mauvais pour la santé de courir.
Bah oui, c'est mauvais pour la santé. Hein. C'est pour ça que vous courez
pas. Je ne fais pas
de
sport. Hein. Il m'arrive de courir un peu, vous voyez, ce physique parfait. Donc oui, je cours, mais en général, je ne fais pas de footing, quoi.
Parce que ça, je l'ai appris dans le film aussi. Non, mais on apprend plein de choses dans le film.
Plein de choses, bien sûr.
La petite Léonie explique « La planète va mal, on doit tous changer nos habitudes, sinon on sera tous en danger. » Est-ce que finalement, les jeunes générations vont finir par en être conscientes en sortant de ce film, par exemple, parce qu'il y a quand même des messages ?
Oui, il y a des messages, mais il ne faut pas oublier que quand les enfants et leurs parents vont voir un film comme ça, bah, ils y vont surtout pour se distraire, pour passer un bon moment. Alors, si en plus, après, en sortant du film, ils ont appris des choses sur la planète, tant mieux, c'est super. Mais le précédent, qui était Ducobu président, ça parlait de politique aussi.
Ouais.
Donc à chaque fois, j'essaye de mettre le doigt sur un sujet un peu actuel, moderne et chaud. Et là... L'état de la planète, ça fait peur. Hein.
Avec le réchauffement climatique, on portera des shorts et des tongs à Brest toute l'année, comme à Copacabana. Qu'est-ce que c'est que ces salmigondices ?
Alors, vous faites référence au film et ça prouve
Tout
que vous
fait.
L'avez vu. C'est très bien, à moins que vous ayez un assistant ou un esclave.
Chut.
D'accord, donc j'ai ma réponse.
Non mais c'est pas vrai en
Donc
plus.
En fait, elle fait allusion au climato-sceptique, ouais, qui est interprété par le grand Nicolas Marié, que vous voyez dans plein de films de Dupontel et qui a été césarisé et qui est un ami de longue date. Et donc, il fait un discours et il dit « c'est pas grave le réchauffement climatique, on portera des shorts et puis voilà, c'est tout ».
C'est un peu ce qu'on se dit parfois. Hein.
C'est ce qu'on se dit, ouais.
Les parents vont forcément se retrouver aussi un peu dans ce film. Parlons, ouais, des punitions. Plus d'internet, plus de jeux vidéo, plus de portable. Ouais. Ça marche ce genre de punition ?
Écoutez, mon fils est grand, donc si je lui dis ça, il me donne une claque. Mais, mais ça pourrait marcher parce que ce à quoi les enfants tiennent le plus, c'est leur téléphone portable, leurs jeux vidéo et internet.
C'est triste ?
Ah, honnêtement, ouais, je trouve ça triste. C'est marrant parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps là. En ce moment, je prends le métro parce que les embouteillages, c'est infernal dans Paris, mais vraiment infernal. Donc je prends le métro et ben personne ne me reconnaît.
Ah bon ?
Non, parce que tout le monde regarde son téléphone portable. Personne ne regarde personne, plus personne. C'est triste. Bon, je ne dis pas que le métro, c'est un endroit où il faudrait qu'on parle, communiquer, danser, je ne sais
pas.
On
avait les yeux dans les livres à l'époque.
Mais, ouais. Mais là, c'est, je sais pas, ça me fait de la peine.
Du Cobu passe au vert, c'est deux et avec Elie Semoun. Je ne sais pas si ça se dit. Ouais, si, deux et avec Elie Semoun.
Oui, oui,
ouais.
C'est un film qui est réalisé par Elie Semoun et dans lequel je joue et que j'ai co-écrit.
Merci d'avoir paraphrasé.
Merci, hein.
Il y a aussi Damien Powell, c'est Mélie Kahn, Frédéric Bell et Gérard Jugnot. C'est la comédie à aller voir en famille. C'est bon pour la planète. Il y a de l'aventure, de l'humour, des gags, de la pédagogie. C'est au cinéma en ce moment. Elie Semoun, on va démarrer notre voyage dans le temps.
Avec plaisir, ma chère.
France Bleu remonte le temps, c'est dans le rétro.
Allez, on y va, on démarre notre voyage dans le temps. Vous naissez dans le 13e arrondissement de Paris, vous grandissez dans une cité d'Antony, dans les Hauts-de-Seine. Votre père, Paul Semoun, travaille à la poste. Votre mère, Denise, est prof de français. L'héritage qu'elle vous a laissé, c'est peut-être l'amour de la langue française. Vous y êtes super sensible à ça.
Oui, très sensible. Je suis sensible aux mots. Pour moi, chaque mot est important, donc on doit les choisir avec goût et avec parcimonie, parfois. Donc oui, c'est très important. J'adore la langue française.
Vous remarquez tout, vous entendez tout. Est-ce que vous trouvez que la langue française...
J'entends les tics verbaux.
Ouais, du coup.
Ouais, le du coup, je le déteste.
Il y en a d'autres ou pas ?
Non, il y a le en vrai qui est en train d'arriver, là.
En vrai ?
En vrai, ouais. En vrai, si je tombe sur quelqu'un qui dit « et du coup » et « en vrai » dans la même phrase, je pense que je peux le tuer.
Tu vois aussi.
Ah, le « tu vois » Ah non, mais je sais pas. Mais le « du coup », il est sur le podium.
Est-ce que vous trouvez que la langue française est malmenée ?
Non, elle évolue. Je ne vais pas parler comme un vieux réac, mais elle évolue. Et c'est le propre d'une langue, non, d'évoluer. Alors parfois, il y a des mots qui disparaissent. On en est triste, mais on a l'impression que ça s'appauvrit, mais je ne crois pas.
Du coup, en vrai, en 30 ans, il paraît que les fautes d'orthographe ont doublé en CM2.
Excusez-moi.
Ah, vous partez. Ah non, vous allez
non,
me tuer.
Non, elle le fait exprès en
mais
plus.
Non, mais
elle
cette
me provoque.
Va partir en
elle
vrille
me provoque.
Avec vous.
Elle me provoque et c'est très très moche comme attitude.
Non, mais je voulais vous lancer sur un sujet, les fautes d'orthographe qui ont doublé en CM2.
Ah, oh merde, c'est vrai ?
Ouais.
Bah, je suis pas exemple de ça, hein. Je fais aussi des fautes d'orthographe, mais je reste en contact avec les enfants qui tournent dans du Cobu. On s'écrit sur Instagram, parfois je donne mon numéro, j'ai donné mon numéro à Damien, Damien Powells. Du Il y a des fautes d'orthographe, putain, mais c'est dingue, c'est de la folie. Le pire, c'est Mathis, bon, je le dénonce, tant pis.
C'est pas sympa.
Mathis Gros, qui était dans Ducobu 3, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'il arrive à faire des fautes d'orthographe en écrivant juste un mot. C'est dingue, mais ça me rend dingue.
Langage SMS.
Ouais, langage SMS. Et puis alors, quand tu dis à un mec qui fait des fautes d'orthographe, il te dit toujours la même chose. Je suis dyslexique et c'est de la faute du téléphone portable parce que j'écris trop vite. Je dicte et j'écris trop vite. C'est faux, en fait.
Elie Semoun, on continue notre voyage téléportation. Nous sommes sur le parking de France à Massy. Vous sortez de chez le coiffeur et vous ressortez avec la même coupe que Jeanne d'Arc. C'est une anecdote banale, l'insouciance de l'enfance et puis les mots de votre père quelques minutes plus tard, vous annonçant la mort de votre maman, vous avez 11 ans. Vous écrivez dans un de vos livres les gouttes d'eau qui coulaient sur le pare-brise de la voiture quand nous sommes repartis, suivaient un chemin invisible, le même que sur mes joues d'enfant. À partir de ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même.
Oui, alors c'était sur le parking à Massy, en effet, je sortais de chez le coiffeur. Et mon père ne m'annonce pas la mort de ma mère, je le savais. Sauf que il le.
Il avait dit à votre
frère. Non, pas du tout. Il rencontre un voisin et il dit à ce monsieur. Ah, comment ça va, Paul ? Mais il est arrivé une catastrophe. Ma femme est morte. Et là, boum, il a donné l'information à quelqu'un, un étranger. Et c'est là où je me suis aperçu, je me suis rendu compte de cette réalité.
Parce que vous étiez là au moment où il le dit à cette personne ?
Oui, j'étais là. Bah, on rentrait de chez le coiffeur, on rentrait dans la voiture. Et j'entends la conversation qu'il a avec ce monsieur.
C'est violent ?
Ah, c'est super violent. Mais attends, mais non, mais je le savais, hein. Que ma maman était... Non, bien sûr.
Ah oui, non, je croyais qu'il le disait, que vous n'étiez pas au courant.
Non, mais c'est là où je m'en suis rendu compte. Vraiment. Tu vois, il y a une petite nuance.
Ouais. Il y a quelques semaines, Jean Reno était notre invité. Sa maman est décédée, il avait 17 ans. Je vous propose de l'écouter.
D'accord.
Maman de la mère pour un fils, c'est... Pour moi, c'est un pilier. Et c'était mon île. Et quand elle est partie, j'ai tout fermé.
C'est-à-dire tout fermé ?
Fermé l'objet de sa peine, quoi. Je suis fermé ici.
C'est très fort de pouvoir refermer ça.
On aimerait
tous avoir cette capacité.
Sinon, je meurs.
Ah oui, c'est une chose que je comprends parfaitement. Il y a quelque chose en moi qui s'est refermé. D'ailleurs, j'ai du mal à aimer et à me laisser aimer. À part par le public, bien sûr. Mais dans l'intimité, oui, c'est compliqué. Hein. Moi qui pousse les gens à lâcher prise, mes comédiens, mais c'est très très dur pour moi de lâcher prise.
Vous
c'est
contrôlez
comme si
les
j'ai
sentiments
trop...
et les émotions.
Oui. Parce que malheureusement, depuis cet événement dramatique, j'ai peur d'aimer quelqu'un à la folie et que cette personne me quitte ou disparaisse. C'est très compliqué de lâcher prise. Ça fait très, très peur.
11 ans, c'est jeune. Vous dites avoir fait un blackout. Comment on entretient la mémoire d'un être disparu quand finalement, on ne se rappelle plus des moments partagés avec cette personne ?
Il y a 3 souvenirs qui se battent en duel. Il y a un mur qui s'est opposé entre les souvenirs que j'avais d'elle et maintenant. Comme si... Ça a été très, très violent. Hein. Je n'ai rien compris. Hein. J'étais pas le seul, hein. Il y avait ma sœur et mon frère. Mais oui, c'est dingue, hein. C'est fou ce genre d'événement. Comme un accident de voiture, quoi, pareil.
C'est votre papa qui va élever seul ses 3 enfants, c'est oui, votre mampa, comme l'appelait votre sœur. C'est l'autorité d'un père et la tendresse d'une mère, finalement ?
Oui, c'est ça. Il était obligé de faire les deux. Par contre, quand il nous faisait à manger, c'était pas ça.
Ah ouais ?
Ah non. Je me rappellerai toujours, le premier repas qu'il nous a fait, c'était des escalopes panées. Donc normalement, on met... Les escalopes dans la chapelure.
Dans les œufs d'abord.
Ouais, dans les œufs, après chapelure.
Ouais, on peut mettre de la farine aussi et de la chapelure.
Voilà.
Ouais.
Bon, la farine, c'était du sucre glace. Le pauvre, il s'était
trompé. C'était un beignet au poulet, quoi.
Ouais, enfin, c'est ça.
Ouais. Non, même pas. Non,
non, c'était dégueulasse.
Élise et Moon, je vous propose de nous replonger dans votre adolescence en musique et ce titre que vous écoutiez, Téléphone. Voici Métro, c'est trop et c'est dans le rétro sur France Bleu. Vous avez remarqué un peu
Non, mais j'ai vu. Hein. Prenez pas pour un coup.
Rassis debout, get down.
Métro, c'est trop, téléphone sur France Bleu. Elie Moon est notre invité. Il est aussi au cinéma dans Du Cobu passe au vert.
France Bleu, dans le rétro, Déborah Grunewald.
On part maintenant en 1976 à Châtenay-Malabry. Nous sommes au 57 rue Jean Longuet. On va pousser cette porte. On est au collège Pierre Brossolette.
Ah oui.
Vous êtes en 6e. En cours de français, il y a là votre prof, Madame Poésie. Elle vous a aimé, elle vous trouvait mignon, sensible, marrant. C'est tout vous, ça, en fait. Un enseignant qui réconforte un enfant, ça laisse une empreinte ?
Ah oui, 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 Madame Poésie, Danielle Poésie, qui est la maman de Clémence Poésie. Vous connaissez
l'actrice.
Cette actrice, ouais. Oui, elle a été ma prof et je l'ai adorée et je l'aime encore. Je crois que j'ai fait une projection sur elle. Ma mère venait de mourir, donc je l'ai vraiment aimée comme une maman de substitution.
C'est-à-dire qu'un prof
il fallait
peut
que je lui plaise,
mère...
en fait. Oui, mais vous savez bien, est-ce que vous avez déjà eu un prof marquant dans votre vie
bien
scolaire
sûr.
C'était qui ?
Prof de philo.
Ça a fait quoi chez vous ?
Oh, mais c'est pas moi. Je déteste quand on pose des
déteste.
Questions. C'est moi
c'est
qui
fou,
pose
hein.
des questions. J'ai
non,
horreur
mais elle veut
de
tout
ça.
Contrôler, celle-là. C'est
ah,
insupportable.
Je déteste. Je déteste.
Mais lâche-toi un peu. Qu'est-ce qui vous a appris, ce prof de philo ?
Bah, je pense qu'il m'a appris à réfléchir. Vous voyez, j'ai
ouais,
bafouille, j'en bafouille, je déteste. Allez-y.
Incroyable.
Bref.
Bon, en fait, moi, mon prof de philo, il m'a appris... non, mais il m'a appris la... Enfin, oui,
non, mais là, on ne parle pas du prof de philo,
ah, oui, je sais pas
on parle de Madame Poésie.
Madame Poésie, ben, plein de choses. Elle m'a éveillée à la littérature. Bon, je l'étais déjà parce qu'à la maison, il y avait des bouquins partout. Elle était un peu baba cool. Mais en même temps, elle avait de l'autorité. Enfin, elle avait ce qu'il fallait pour nous faire aimer le français.
Au collège, vous avez l'impression d'être comme tout le monde ou vous vous sentez différent ?
Non, non, complètement différent.
Pourquoi ? Non, vous allez me reprendre sur le
non.
pourquoi.
Non, non, pas du tout, je ne vais pas vous reprendre. Elle est complètement... Non, mais c'est fou, hein. elle est sur les nerfs. Hein. Non, pas du... pourquoi ? Bah, parce que, vous le savez bien, parce que j'étais orphelin de mère. Donc, j'étais différent, bien sûr. Mais je m'en servais de ça, c'est bien d'être orphelin de mère. Je conseille à tout le monde. Non, mais voilà, quand...
Comment on peut s'en servir de ça ?
Je sais pas, Monsieur Semoun vous a appris vos cours. Non, je peux pas, parce que je suis orphelin de mère. Non, non, mais je sais pas, je m'en suis servi pour me faire plaindre. Comme elle était prof de français, ma mère, bah, les collègues me prenaient un peu sous leurs ailes, etc.
Pour enfin, vous faire
le chouchouter. Petit, voilà, le petit Calimero, quoi.
Mm-hmm. On va avancer un peu dans le temps. Quelques années plus tard, en terminale, il y a ce professeur de philo, toujours chic, en costard. Il s'appelle Monsieur Dupuis. Il est catholique croyant. Et avec la philosophie, il a fait de vous un incroyant.
Oui.
Vous croyez vraiment en rien ?
Non, je ne crois pas en Dieu, ça c'est sûr. Je pense que c'est des histoires, en fait, qui ont permis de mettre des garde-fous aux hommes pour leur dire ce qu'était le bien, ce qu'était le mal. Non, non, c'est des belles histoires... Des très belles histoires. Quand j'étais ado, je lisais les... C'est pas les contes des mille et une nuits, mais c'est la mythologie grecque, mais ça c'est...
Homère ?
Homère, voilà. Et je retrouvais des histoires dans Homère que je retrouvais dans la Torah. L'histoire de cet homme qui va sacrifier son fils et au dernier moment, le Dieu arrête son geste. C'est la même chose dans la Torah. Puis je suis sûr qu'il y a plein de similitudes entre plein d'histoires. Donc non, je pense que c'est des histoires.
La philosophie sert à se poser des questions, à forger son esprit critique, c'est
oui.
important ça ?
Oui, bah, vous avez la réponse, vous savez très bien, bien sûr, puisque votre prof de philo a été important pour vous.
Vous posez beaucoup
Qu'est-ce
de questions
que vous aimez
dans
comme,
la vie
comme
Non, je ne vais pas répondre aux questions.
Elle est chiante, hein. Je vous le dis franchement. Hein. Et je me retourne vers la vitre et je vois votre équipe qui est hilar, mais qui est complètement d'accord avec moi. Il y a des gens qui souffrent, avec ceux qui travaillent avec vous. Quel est le philosophe
je
que vous aimez ?
Je ne répondrai pas.
Quel est le philosophe que vous aimez ?
Freud.
Vous pouvez... Et ben voilà.
Voilà, c'est
bien.
Tout.
C'est
la seule question.
Hein,
à
bon, c'est pas grave.
Ah oui, philosophe, pardon.
Philosophe.
C'est un psychanalyste.
Oui.
Bon,
non,
c'est
vous
pas
aimez,
grave.
Vous connaissez Alain ?
Alain.
Voilà.
Je sais que vous avez
Propos
été beaucoup inspiré
ouais,
par Alain.
Voilà.
Téléportation, on y retourne.
Je te rêve.
Nous sommes chez vous, Elie Moon, dans votre chambre d'adolescent. À 15 ans, vous aimez la poésie. Quand vous êtes amoureux, vous écrivez des poèmes. Aujourd'hui, on déclare plus vraiment son amour avec des poèmes.
Si, je pense. Hein. Tout le monde écrit des poèmes, c'est vrai. On écrit des SMS.
Ouais.
Bah, moi, je faisais ça un peu à l'ancienne, mais je l'ai encore fait il n'y a pas si longtemps. J'ai écrit des albums. Les poèmes, c'est des chansons sont des poèmes chantés.
Même mon dernier livre, Compter jusqu'à toi, c'est un poème sur 110 pages.
Pourquoi on imagine que la poésie, c'est... Non, il y a un côté ringard, parfois.
Ceux qui pensent ça sont des cons. Voilà. C'est pas du tout ringard. Et vous seriez surprise, je crois qu'il y a plein de gens qui écrivent de la poésie. Beaucoup de gens. Donc non, c'est pas ringard, du tout.
Oh Élie, chaque fois que je te vois, dans tes yeux je me noie, un simple sourire et mon cœur chavire, je raconte n'importe quoi, ça te laisse pantois. Aujourd'hui dans le rétro, je te dédie ces mots, qui sont très très beaux. On jette un œil dans le rétro, je te dis à tout de suite gros.
Écoutez, okay. Là vous avez l'exemple parfait de la pudeur de Déborah, qui, pour dire à quelqu'un qu'elle aime, va passer par des chemins qui sont un peu rigolos,
ouais.
Et qui veulent dire... Élie, je t'aime. Voilà.
Sur France Bleu, bleu comme
exactement.
Tes yeux, Élie Semoun, à tout de suite, on revient vite.
Déborah, je te vois, et quand je te vois, ça m'émeut.
Ça rime pas.
Ouais. Bon, à tout à l'heure.
À tout de suite.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
On appuie sur le bouton téléportation, destination le quartier de Belleville à Paris. Nous sommes en mai 1991, au 61 boulevard de Belleville. Derrière cette porte, le Berry Zèbre.
Voilà. Pas grave.
Sur scène, un duo de potes, Dieudonné et Élie Semoun. C'est votre premier spectacle, un grand noir et un petit brun. En plus de bosser ensemble, vous étiez de grands amis. Est-ce qu'on peut tout pardonner à un ami?
Oui, si c'est un ami, on peut tout lui pardonner. C'est compliqué avec Dieudo, mais ça fait quand même un an là que je ne l'ai pas eu au téléphone, ni que je ne l'ai pas eu en texto, tout ça. Je ne sais pas trop ce qui devient. J'entends parler de lui, je vois passer des vidéos où il se fait encore interdire. Il veut jouer à Montpellier, c'est interdit. Il veut jouer à Bordeaux, c'est interdit.
C'est injuste qu'on lui interdise aujourd'hui.
Pas du tout. Non, il a que ce qu'il mérite. Qui sème le vent, récolte le tempo.
MC Solar.
Non, mais voilà, il peut plus jouer au martyr. C'est lui qui a provoqué tout ça. Et c'est un abruti. C'est vraiment un idiot parce que c'est du talent gâché.
Mais être ami, c'est aussi lui dire que c'est un abruti.
Oui, bien sûr. Peut-être qu'il l'entendra. Et puis peut-être ça lui permettra de faire une vidéo où justement il va me répondre et il va m'insulter ou il va se foutre de ma gueule. Mais tu peux y aller, Dieudo, il n'y a aucun problème. Mais je te dis, tu es un crétin. Tu as un talent fou, tu es un super acteur, et je ne comprends pas, là c'est typique chez lui, dès qu'il y a quelque chose qui va bien, il s'arrange pour tout péter. Et c'est ce qu'il a fait quand on était en duo, et je ne comprends pas quel avantage il peut tirer à se comporter comme ça, je ne comprends pas. Il a maintenant, je crois, un bracelet électronique, il ne peut plus jouer nulle part, enfin je ne vois pas l'intérêt. C'est quoi l'intérêt? Quand on a un talent d'écriture et de comédien comme ça, pourquoi le gâcher? Je comprends pas. C'est un mystère, ça restera un mystère pour moi.
En 1997, une page se tourne avec la séparation d'avec Dieudonné. On découvre un an plus tard les petites annonces d'Élie.
Bonjour, c'est Micheline, ou Micheline, comme disent ceux qui éprouvent le désir de me houspiller. Et puis c'est plus original.
Bonjour, comment je m'appelle Toufik. Donc là, je voulais laisser un message à... une meuf là que j'ai connue, là, une petite Séfran avec un petit huc et tout. Isabelle là!
Si tu es blonde à forte poitrine, ça m'intéresse aussitôt. Yo, t'es attendu, avec impatience à toi.
Là, c'est Cyprien qui vous inspirera pour votre premier film en 2009. On a l'impression que vous avez beaucoup de tendresse pour ces personnages. Est-ce qu'il faut avoir de la tendresse pour pouvoir se moquer des gens?
Oui, mais dans toutes vos questions, il y a la réponse. Vous le faites exprès ou pas?
Non, je ne la connais pas, la
réponse.
Si,
vous le faites exprès. Vous pensez que je vais dire quoi?
Je ne sais pas.
Je sais quoi,
parce
Déborah?
Parce que vous pouvez développer.
Ça.
Non, mais vous pouvez me dire, oui, j'éprouve de la tendresse,
évidemment.
Mais il faudra développer, c'est ça.
Évidemment que j'en éprouve.
Vous m'avez grillé, en fait.
Oui, je vous ai grillé. Mais rien ne m'échappe, vous le savez. Non, mais évidemment que j'ai de la tendresse. Sinon, j'aurais des procès au cul depuis que je commence.
Vous n'en avez jamais eu?
Jamais, non. Et j'en espère pas. Mais à chaque fois, je me suis moqué de minorités. Mais à chaque fois, c'était avec beaucoup de tendresse, évidemment, parce que je les aime. Ils me font rire parce qu'ils n'ont pas les moyens de se prendre au sérieux, mais ils se prennent au sérieux quand même. Ils sont dans une misère sentimentale, sexuelle, dans une misère tout court, dans une solitude. Micheline, c'est triste. On peut se dire, oh là là, ils se moquent des dames pipis, ils se moquent des grosses, parce qu'elle est grosse, Micheline. Mais pas du tout. Les gens comprennent que c'est son intérieur qui me fait de la peine, c'est sa recherche qui me fait de la peine. Donc oui.
Vous voyez, j'ai bien fait de vous poser la question.
Oui, vous avez bien fait, mais
il y avait quand
votre
même
question était très orientée.
Oh, il y en aura d'autres.
J'aurais pu vous dire oui. Et basta.
Et là, j'aurais été dans la merde.
Et dans la merde, voilà. Mais comme mon but, c'est pas de vous mettre dans la merde, Déborah, parce que je vous aime beaucoup.
Je vous remercie.
Merci.
Des spectacles, Elise et Moon, il y en aura 7 en 20 ans. Qu'est-ce qui a évolué?
Désolé.
Qu'est-ce qui a changé
Eh bien, ma chère, à chaque fois, on me pose la question, peut-on rire de tout? Eh bien là, je peux vous dire que non, on peut plus rire de tout. Et ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Le second degré ne semble plus exister pour certaines personnes. C'est insupportable. Par exemple, j'étais dans un café avec un copain. Il y a un serveur noir qui vient nous servir. Et comme je suis très provocateur, je dis à mon copain, sachant que le serveur allait entendre, « De toute façon, moi, j'aime pas les noirs. » Le serveur éclate de rire. On éclate tous de rire. Et à cette table, il y avait une Américaine. Elle me dit, « Vous auriez fait ça aux États-Unis, vous seriez en prison. » Eh ben, voilà ce que ça représente maintenant. C'est-à-dire qu'on est en train de s'américaniser. En plus, on nous explique, et ça me rend dingue, on nous dit... De quoi il faut rire? Il faut pas se moquer des gros. Il faut pas dire gros. Il faut pas se moquer des lesbiennes. Il faut pas se moquer des LGBT, je sais pas quoi. Il faut pas se moquer des juifs. Il faut pas se moquer des arabes. Mais de quel droit? Enfin, notre métier, c'est bouffon professionnel. On a le droit de se moquer de tout le monde. Tant que c'est fait avec respect et que c'est pas raciste et que c'est pas méprisant, on peut se moquer de tout le monde. Et arrêter de nous emmerder avec ça.
Mais ça
restez
peut
dans
blesser.
Vos petites associations. Mais non,
ça peut blesser. C'est pour ça. C'est ce qu'on entend beaucoup
justement,
aujourd'hui.
Mais on est dans une société de victimisation perpétuelle. C'est insupportable.
Comment vous faites, vous qui êtes humoriste?
Ça m'énerve. Je suis très provocateur. Donc, moins on me dit de le faire, plus je le fais.
Qu'est-ce qui faisait rire beaucoup à l'époque et qui est beaucoup moins drôle aujourd'hui? Parce qu'il y a peut-être aussi des choses qui sont plus drôles aujourd'hui.
Vous êtes tombé sur le mauvais client parce que moi, j'ai... Dans mon ancien spectacle, j'ai un sketch sur un mec qui fait « Oh tiens, ça va toi ?»« Ah non, je reviens de Thaïlande là. Non, j'ai pas trop visité la région. Moi, c'est plutôt les rapports humains qui m'intéressent. » Est-ce qu'on a le droit de se moquer des pédophiles? De parler de la pédophilie maintenant?
Je
sais pas moi.
Dans votre spectacle, vous y allez plein pot.
Oui,
dans
plein
le dernier spectacle. Ouais.
Voilà.
France Bleu, dans le rétro.
Elise et Moon, en 2003, sort votre premier album Chanson. Deuxième album en 2007, Sur le fil. Quelques années plus tard, troisième album. Nous sommes en 2018, cette année-là sort Des paroles en l'air.
Mon amour, c'est comme ça que je t'appelle. Ton prénom, ça m'est égal. Pas besoin de plus, ma belle. Rien de mieux ne te dévoile.
Ce titre parle d'amour, du bonheur éphémère, du temps qui passe. Le prénom, c'est le titre de cette chanson. Quand vous avez une chérie, vous lui donnez un petit surnom?
Non, pas trop. Un petit surnom
Ma chérie, mon bébé.
Ah, chérie, chérie, c'est joli, chérie.
Ouais. Ouais,
chérie.
Classique.
Bébé, non, c'est ridicule. C'est vraiment abéti.
Non, je vous laisse. Je vous laisse galérer. Allez.
Saleté. Ouais. Abéti, ABCD. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, 1, ouais.
Mais sinon, c'est donc.
Sinon, c'est
A, B.
A, B, ouais, c'est abétifiant. C'est bétifiant. C'est B. Oh putain, je viens de me choper la honte devant. Mm. Ouais,
c'est abétissant donc.
Abétissant.
Ouais.
C'est très abétissant. Par exemple, quand vous tombez sur un plat, une mousse au chocolat, c'est abétissant. On a envie de manger cette mousse au chocolat. C'est pour ça qu'on dit c'est abétissant. Ouais.
Ouais.
On va cesser cette émission.
Ouais.
Je pense que vous allez...
Je pense pas me planter en disant que vous êtes, Elise et Moon, quelqu'un de mélancolique. La mélancolie, est-ce que c'est éprouver du bonheur à être triste?
Tout à fait. Oui, il n'y a rien de mal à être triste. C'est un sentiment comme un autre.
Être triste, on associe ça plutôt à la douleur?
Ah oui, non, mais on peut
s'y sentir bien.
Oui, on peut l'avoir. Quand vous vous promenez, je vais choisir un parc que tout le monde connaît. Le parc près de la...
Un parc que tout le monde connaît, mais vous ne savez pas comment il s'appelle.
Bon, écoutez. Allez, on va
non, mais c'est quoi,
on va se dire au revoir. Non, mais c'est un parc dans Paris, mais c'est près le parc du Luxembourg. Voilà.
D'accord.
Donc on va refaire
tout
le montage.
Tout le monde ne connaît pas le parc du Luxembourg.
Quand vous allez vous promener au parc du Luxembourg et qu'on est en automne, et vous avez un casque sur les oreilles, vous n'écoutez pas France Bleu, vous écoutez de la musique classique ou vous écoutez...
L'album
moi, j'écouterai mon album ou alors un album de Léo Ferré ou de la Bossa Nova ou j'en sais rien. Et ben voilà, c'est vous cultivez une certaine mélancolie puis c'est agréable.
C'est un
refuge. Je pensais au parc Monceau aussi. Oui, c'est un refuge, ouais. On va dire que c'est un sentiment que je connais par cœur, donc j'y suis bien.
Vous y êtes bien.
Ah oui, c'est chouette la mélancolie. C'est beau.
On rappuie sur le bouton. Destination 2018, Elysée Moon. Vous vous réveillez, c'est le matin, vous allez dans votre jardin, et là, vous urinez
dans
votre composteur.
Attendez, j'écoute. Ça, c'est un jet, d'accord.
Avec l'âge, c'est moins puissant.
Oui, c'est en plusieurs fois, c'est ça. Je vous emmerde, hein, Déborah, je vous le dis franchement, je vous le dis droit dans les yeux. Vous pouvez même garder ça,
Mais je garde tout dans cette émission.
Oui, ben je sais bien. Vous allez vous servir de tout.
Bien sûr.
Et vous êtes en train de vous moquer de mon âge.
Non, mais
clairement.
Puisque
vous dites. Non, j'ai bien compris.
Non, mais c'est très bon pour le compost.
Oui, c'est très bon.
De faire
regardez
pipi,
sur Internet, si vous avez la chance d'avoir un jardin et que vous pouvez encore pisser, allez dans votre compost et pisser au fond du jardin. C'est très bien. Et puis ça économise de l'eau, l'eau des toilettes.
Vous avez écrit « Pelouse interdite », journal d'un amoureux des plantes. Vous êtes un amoureux de la nature, un contemplatif. Le jardin, c'est un endroit où vous déconnectez. Est-ce que c'est une façon de fuir le monde qui va parfois trop vite?
Oui.
Bah là, il faut développer. Ah, parce que je vais trop vite aussi.
Un peu de silence, ça fait du bien, non?
On va y aller?
Ouais, on va y aller.
À chaque fois, on l'a fait,
bien
cette
sûr,
vanne.
Bien sûr, oui, mais je l'adore. J'adore cette vanne.
Est-ce que... Non,
je la fais qu'avec vous, hein. Oui, mais j'adore la nature et puis c'est vrai que bon, mon jardin il est pas gigantesque, mais c'est un endroit où je me sens parfaitement bien. Je vais voir mes plantes, je modifie des endroits, je nettoie, je coupe, je taille, j'arrose,
vous
ou
vous
alors
chier,
je fais rien du tout. Voilà. C'est pour ça que j'étais un petit peu en retrait depuis tout à l'heure. C'est que il y a une attitude insultante chez Déborah. Vis-à-vis de moi. Je me suis fait et traiter de vieux et traiter de mec qui se fait chier en fait dans son jardin alors que j'essaye d'en parler avec une grande poésie.
Non mais en plus c'est vrai.
C'est la
super
vérité.
Le jardinage. Non mais
oui.
C'est vrai, c'est super le jardinage. Vous connaissez la bactérie du bonheur qu'on trouve dans la terre?
Ah bon?
Vous connaissez
non,
pas?
Non mais sérieux?
Ouais, sérieusement.
C'est quoi?
C'est la Mycobacterium vaccae. En fait, le
ah
manque
bon
de sérotonine peut être source d'anxiété et entraîner une dépression. Et bah, cette bactérie, elle produit de la sérotonine et c'est l'hormone du bonheur, la sérotonine, et c'est présent dans la terre.
Ah bon?
Ouais.
C'est-à-dire que quand vous
mettez vos mains dans la terre, il y a cette bactérie-là.
Et que vous léchez vos mains.
Ah ça,
après,
je sais pas.
Ah c'est vrai. Ah ça expliquerait plein de choses.
C'est pour ça que vous êtes heureux.
Ouais, certainement. Même si ça se voit pas, mais certainement.
Je vous ai appris
heureux
quelque chose.
Heureux dans mon jardin, en tout cas. Oui. Ah bah pour une fois, en plusieurs années, j'ai pas appris grand-chose, vous savez.
Elysée Moon, on part maintenant en 2020.
Ah, il va vous emmerder.
Non, je suis pas content.
Pourquoi?
Mais bien sûr que je suis pas content.
Pourquoi?
Je me demande pourquoi. J'ai aucune relation avec vous.
Oh. Mais si.
Alors, elle a besoin de comme ça, de se faire connaître, de parler d'elle et tout ça. Mais il faut la laisser tomber. Ou alors tu lui fous une baffe.
Eh oh, papa, sois pas méchant. Hein.
À la télé, on découvre mon vieux, un doc, dans lequel vous partagez des scènes de vie de votre papa atteint d'Alzheimer.
Ouais. Ah ouais, oh là là, qu'est-ce qu'il était marrant.
Mais on est un peu ronchon aussi.
Oui,
les personnes qui sont, qui vieillissent, qui sont atteintes d'Alzheimer, peuvent devenir un peu ronchon.
Oui, mais c'était pas le cas de papa. Il était assez, il était toujours souriant, il
drôle.
Se marrait tout le temps. Ouais, il était drôle.
Un médecin vous dit un jour, il faut profiter de l'instant présent, il faut leur faire vivre des bons moments parce qu'ils vont peut-être les oublier, mais au moins, ils les auront vécus.
Oui.
Ça, c'est important.
C'était un conseil que m'avait donné, on avait fait faire un test à mon père, des tests qu'on fait aux gens pour savoir s'ils ont Alzheimer. Bon, évidemment, il a réussi haut la main cet examen. Et je lui ai dit, ma sœur ne veut pas que j'amène mon père à la maison parce que quand il revient à Lyon, parce qu'il était à Lyon, il sait plus où il habite, encore plus qu'avant. Et il m'a dit, non, profitez-en, c'est pas grave, profitez-en. Et c'est ce qu'on a fait. Et je crois que j'ai pas assez profité de lui. C'est comme ça. Ça passe vite, le temps, c'est dingue. Incroyable.
Quand un proche est atteint d'Alzheimer, il faut aussi, en tant qu'aidant, savoir se protéger.
Oui, c'est indispensable. C'est le conseil que je donne. Quand je me baladais avec le film, que je faisais des petites avant-premières, des petites projections, je leur disais « pensez à vous ». Parce qu'on peut être entraîné sur une pente savonneuse et glisser en même temps que les malades. J'ai une cousine, Myriam, qui s'occupe de sa maman, de ma tante donc. Et je lui dis « lève le pied s'il te plaît, va pas la voir tous les jours, pense à toi, parce que sinon ça va te déprimer ».
Oui, mais après on se dit qu'on n'a pas passé assez de temps et on regrette.
Ben voilà, ouais. C'est la culpabilité. Mais il faut penser à soi.
Votre père décède en 2020, Elise Moon, vous avez dans votre dressing des vêtements de votre papa. Comme pour ressentir sa présence, un jour vous enfilez ses chaussures, vous vous souvenez de ce jour-là?
Ouais, j'étais triste, je faisais rien, j'étais en haut dans mon dressing. Et puis j'ai vu ses chaussures et je me suis dit, tiens, c'est marrant, je vais les mettre pour voir ce que ça fait. Je les ai mises et puis voilà, ça m'a rendu triste. Et puis j'entendais le bruit des chaussures sur le parquet. J'ai l'impression que c'était lui. C'est marrant. C'est comme j'aurais mis ça dans un film.
Ouais, vous savez, très cinématographique. Ouais.
Ou un chapeau. J'aurais mis son chapeau ou sa casquette, puis je me serais regardé dans la glace. C'est beau. C'est ça la nostalgie.
Dans ce documentaire, Elise Moon, on vous voit vous occuper donc de votre papa, veuf depuis de longues années. Il a élevé seul ses trois enfants. Il n'a jamais refait sa vie. C'est beau ou c'est triste?
C'est dommage, mais nous, on était des petits saligots. Hein, parce qu'il avait une copine qui s'appelait Bernadette, qu'on détestait. Et dès qu'elle téléphonait à la maison, on lui raccrochait au nez, on lui disait que mon père n'était pas là. Donc on l'a un peu empêché d'avoir des fiancés. Mais un jour, un matin... On vivait tous ensemble dans une cité, enfin dans un immeuble. Un matin, il sonne à la porte, il était 5 heures du matin et je lui ouvre la porte, il était en pyjama. Et en fait, il avait oublié ses clés. Je pense qu'il avait été chez une voisine ou quelque chose comme ça. Il faisait ses coups en douce, quoi.
Mais parce qu'en fait, vous ne vouliez pas que votre maman soit remplacée
voilà,
par une autre.
Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Parce qu'elle était vraiment exceptionnelle, elle était aussi belle qu'intelligente et qu'aimante. Enfin, ce dont je me souviens, hein. Je me souviens pas trop.
Mais c'est le genre de réaction que beaucoup d'enfants peuvent
tous
avoir. Hein.
Ouais, ouais, j'en suis sûr et certain.
De ne
ouais,
pas
ouais,
vouloir qu'on remplace
ouais, ouais,
la maman ou le papa. Hein.
Ouais, ouais, elle est sacrée.
Elise Moon, le voyage touche bientôt à sa fin. On revient sur France Bleu.
C'est pas une mauvaise nouvelle. Hein.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
On continue notre voyage dans le temps. Nous voici en 2022, dans cette librairie, sur le rayon, votre livre « Comptez jusqu'à toi ». C'est un livre sensible et délicat, un roman qui raconte l'amour, l'amour comme on peut le vivre au fil de la vie. Vous dites être dépendant affectif. Qui dit dépendance, dit souffrance.
Oui, oui, et bah, toutes les dépendances amènent une certaine souffrance. Le dépendant au casino, il souffre. Il va jouer au casino, pas pour gagner, mais pour perdre. Le dépendant à l'alcool, c'est terrible aussi. On m'avait donné une image, un mec qui boit parce que sa femme l'a quitté, parce qu'il buvait. C'est une sorte de... Donc oui, je pense que je suis un dépendant affectif.
C'est quoi dépendant affectif en fait?
C'est quelqu'un qui cherche l'affection et l'amour, et qui croit en fait, qui croit aimer. En fait, il aime pas, c'est juste de la dépendance. C'est-à-dire qu'il ressent pas les sentiments réellement. Il se joue une sorte de comédie de l'amour, il aime l'amour, il se raconte des histoires, mais au fond, la vraie histoire, c'est que tant qu'on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres.
Et ça veut dire que vous ne tombez jamais amoureux ?
Si, je crois que je peux tomber amoureux, mais c'est très difficile, j'en parlais avec un ami il n'y a pas longtemps, c'est très dur de savoir si on aime vraiment. Enfin, pour un
dépendant
affectif.
Comment on le sait d'ailleurs ?
Je ne sais pas, c'est vraiment un mystère pour moi.
Vous dites en amour, j'aime ressentir le quotidien parce qu'il est rassurant.
Ouais, c'est chouette quand on est en couple avec quelqu'un. Moi, j'aime beaucoup ça. Les habitudes, elles sont agréables, elles peuvent être désagréables de dormir avec quelqu'un, de partager un repas. Voilà, il y a des... Ouais.
Ouais.
Non, non.
Il y a des...
Vous alliez dire quelque chose ?
Non, non, non.
Ah. Il y a des côtés sympathiques dans la solitude, dans le célibat, et puis il y a des côtés... très, très angoissant. Vous alliez dire quelque chose.
Donc je vais enchaîner, mais j'attends que vous ayez terminé de parler, en fait.
Oui, mais ce que j'ai dit n'était pas très, très intéressant. J'ai l'impression que ce que vous allez dire va être plus intéressant.
Non, ça va être très bateau, mais le quotidien, il est rassurant pour vous, mais ça peut être gonflant aussi, le quotidien, la routine.
Oui. Oui, oui, bien sûr, mais...
Pourquoi vous
rigolez ? J'ai un métier... Non, parce que peut-être que vous pensez à vous. si, si. Et donc, non, mais moi...
Cette émission.
Oui, oui, c'est n'importe quoi. Oui. Je le confirme et
Voilà. Et donc, merde, en plus...
Donc la routine, le quotidien...
Non, mais c'est, j'ai pas une vie de fonctionnaire. J'ai pas des horaires fixes, etc. Donc mon quotidien, il est un jour à Rio, le lendemain à De Janeiro. Non, mais voilà, ça bouge tout le temps. Demain, je fais des avant-premières.
En fait, vous avez une vie tellement intense oui. que c'est bien aussi de se poser.
C'est ça, et le ça me rassure.
Rassurant, ouais. Ouais. Comme dirait la mère de Monsieur Latouche, l'amour, on s'aime un quart d'heure et on se bouffe pendant 30 ans.
Et on se bouffe la gueule pendant 30 ans.
Non, ouais, mais moi, je suis
polie. Oui, d'accord. L'amour, ça dure 15 minutes et on se bouffe la gueule pendant 30 ans. Oui, c'est la vision de Maman Latouche que j'interprète de l'amour. C'est horrible.
Élise et Moon, on termine ce voyage avec cet extrait. Wagner.
La mort de Tristan et Isolde.
Ouais, exactement.
La mort d'Isolde, la mort, précisément. Ouais, elle attend d'Isolde. Son amant sur une île et elle apprend qu'il est mort. Et donc, elle prend une sorte de poison, enfin bref, qui l'a fait mourir. C'est sublime. Ça dure 7 minutes précisément. Mmh. Et c'est magnifique.
C'est une musique que vous affectionnez particulièrement.
Wagner. Oui, j'aime beaucoup.
Wagner, accompagné des mots de Marcel Pagnol pour terminer cette émission. Mmh. « Telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. »
J'aime Pagnol. C'est tellement vrai cette phrase. Elle est magnifique. Elle est mal dite, mais elle est magnifique.
Merci Élise et Moon.
Merci Déborah. Bon, tu vois, ça s'est bien passé plus de. Plus
c'est
ou moins.
La fin. Voilà. Et Fesna.
Elle est vraiment triste.
Non, mais aidez-moi parce que là, j'ai l'air d'une débile. Mais non, c'est une
tout.
Référence au film du Cobu pas sauveur. À un moment donné, vous pleurez, vous n'articulez pas. Enfin, non, je l'ai pas bien
alors,
fait.
Je pleure pas, mais
oh,
je parle. C'est compliqué.
Bon,
je peux pas le faire.
Non, mais je l'ai pas bien fait.
Vous l'avez très bien fait.
Merci. C'est la fin de notre voyage. Du Cobu Passauvert, c'est une comédie familiale, légère, amusante, colorée. C'est au cinéma en ce moment avec Élise et Moon, Damien Powels, Émilie Caen, Frédéric Bell et Gérard Jugnot. Dans le rétro, cette émission et toutes les autres, vous les retrouvez en podcast. Passez un super bon week-end. Prenez soin de vous. Salut, merci Élise et Moon.
Merci Déborah, je t'aime.
Pas moi.